vagabondage. Une émission proposée par Thierry Margot avec Brice Loriot aujourd'hui à la technique. Balade intemporelle à la rencontre des gens, des choses, des musiques et des mots. La rencontre, les retrouvailles seront toujours de mise pour 2010. Nous continuerons de vagabonder avec les artistes, les poètes, de poser nos regards et de dire ce que nous voyons, d'embrasser cette forme de liberté autant que possible, de nous raconter la vie pour le temps où elle nous la prête. Nous continuerons même si la faucheuse, en ce début d'année, n'a pas épargné quelques poètes qu'elle nous a emportés beaucoup trop tôt. Et avant de retrouver Michel Arbat qui nous présente son nouveau spectacle, son nouvel album, voici un extrait du dernier album de Mano Solo, tout juste parti sur l'autre rive.
Un matin qui se réveille, tout le monde en sommeil. Pour un jour de plus, des années entières. Un oreiller empoigné, une nuit à se retourner. La sueur dans les cheveux, déjà la fatigue au bord des yeux. Je ne sais pas ce qui peut bien manquer à tous les feux que j'ai pu allumer pour me retrouver si froid chaque matin. Je sais bien que c'est la guerre et qu'aucun n'a son repos. Mais j'ai jamais cru en l'enfer et la vie reste un cadeau. Se battre les 10 doigts pour le rêve d'une peau de satin n'a pas d'égal dans l'univers. Au moins faisons le bien. D'une vie entière inutile, il n'y aura eu que l'amour. Chanson de merde, qu'on y croit encore. Un matin se réveille, tout un monde en sommeil. Pour un jour de plus, des années entières. Un oreiller empoigné, une nuit à se retourner. La sueur dans les cheveux, déjà la fatigue au bord des yeux.
Mano Solo, un artiste qui nous a quittés encore trop tôt, hein, comme Lassa, au début de l'année. Donc voilà, on sait que ces artistes qui ont une œuvre immense, cette œuvre continuera de vivre et voilà, on se chargera aussi de rappeler cette œuvre à notre mémoire. Tout comme toi, Michel Arbat, qui de temps en temps comme ça fait monte des spectacles et t'arrête comme ça sur des œuvres de grands poètes. Alors déjà, bonsoir.
Bonsoir.
Merci donc d'être venu présenter, d'avoir pensé à Divergence FM.
Vagabondage pour eux. On voilà. Est chez nous.
Ouais, c'est vrai. On aime bien. Je parlais de retrouvailles. Hein, la rencontre doit continuer, mais aussi les retrouvailles. Penser à retrouver comme ça, à repartir en balade avec des gens qu'on croise. La vie fait qu'on est très occupé chacun de notre côté, mais ça nous empêche pas de temps en temps comme ça de faire recroiser les chemins.
Bien sûr, mais bon, on bouge beaucoup aussi. C'est un métier de vagabond un petit peu, ce métier. Enfin de vagabond, c'est peut-être
de vagabondage en tout cas.
De vagabondage, voilà. Donc on bouge beaucoup et on n'est pas toujours. On est Quand on est ici, enfin quand je suis ici, en tout cas, moi, j'ai tendance à être un petit peu casanier. On bouge trop des fois.
Ben, en fait, c'est aussi ton travail. Alors, c'est un petit peu comme nous quand on bosse, même si on est sur place. Dès qu'on arrête, on aime bien un petit peu faire la pause.
Le voyage immobile de temps en temps, c'est bien.
Ouais, ça aussi, ouais. C'est une période créative pour toi, qui peut être une période créative ou c'est...
Maintenant,
quand tu t'arrêtes comme ça.
Je m'arrête, j'ai l'impression que je m'arrête jamais.
Ouais, c'est ça.
Non, en fait, la difficulté, c'est de trouver justement on rêve toujours du temps pour se poser, pour faire des choses, et c'est jamais comme ça qu'on les fait. On les fait toujours dans l'urgence. Voilà, c'est toujours un peu comme ça, mais je m'en plains pas, hein, au contraire, je trouve ça plus. Enfin, je suis très heureux de faire un métier qui me plaît. Et puis, j'avais un pianiste qui blaguait en disant, les gens imaginent que la vie d'artiste, eh ben, c'est se balader, voir des paysages extraordinaires, rencontrer des gens intéressants. Eh ben, ils ont raison, les gens.
Oui, je m'attendais effectivement à autre chose, mais c'est vrai, ils ont raison. Et c'est vrai que c'est un beau métier.
C'est peut-être un tableau un peu idyllique, parce que bon, il y a aussi tout ce qu'on fait qui n'a rien d'artistique pour continuer à faire vivre justement une petite part d'artistique.
Oui, c'est ça, il faut se battre. Hein,
ça pense prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, mais bon, c'est comme ça.
C'est une période qui revient comme ça de manière cyclique, où les artistes sont en danger. Quoi. On parle de tout à l'heure de forme de liberté, quelle expression, de pouvoir continuer de dire, de poser nos regards, mais il y a des périodes où c'est mis à mal.
Et puis, on a la
chance ici que ça va, mais c'est pas dans tous les pays. Il y a des pays où il est plus difficile.
Oui, il y a des pays où peut-être c'est plus dur de façon plus franche et plus abrupte. Si on dit quelque chose, ben on risque de se faire égorger en sortant de chez soi le matin. Mais je pense que notre danger à nous, c'est plus dans une espèce de... comment dire, de bouillie, quoi, qu'on nous sert et qui endort tout le monde un petit peu, et on se laisse aller là-dedans. Tout le monde, hein, tous. C'est Groucho Marx qui disait, par exemple, la télévision est un promoteur formidable de la lecture, parce que dès que quelqu'un ouvre un poste de télé, je vais dans la chambre d'à côté lire un livre.
Voilà, je crois que là, tout le monde est dit. Oui, voilà. Ça me rappelle une petite blague où un père offre à son enfant un truc. Le gosse, il regarde, il ouvre ça, il dit, qu'est-ce que c'est ? C'est marrant, ça ressemble à un disque dur. Mais il y a plein d'informations comme dans un disque dur. Mais c'est quoi ? Un livre.
Voilà.
Les temps modernes. Alors Michel, tu es venu, donc, je le disais en introduction, nous présenter ton nouveau spectacle. Puisque tu as l'habitude de sortir, quand tu sors un disque, simultanément, il y a un spectacle qui va avec.
C'est pas simultanément, parce qu'en fait, ce disque, c'est un petit peu le résumé d'un spectacle que j'ai monté il y a plus d'un an maintenant, un an et demi même, avec Olivier Roman Garcia, qui est aussi l'artisan, on peut dire. Enfin, on partage vraiment la réalisation de ce CD complètement à part égale. Il est sur la couverture. Voilà. C'est un disque de duo, on peut dire. Bon, ce sont mes chansons, mais d'ailleurs, on en a co-composé pas mal. Et puis, surtout, il a fait un travail d'arrangement, enfin de réalisation, je dirais, parce que arrangement, on a cherché un petit peu, on a pris le temps, on a fait ça à la maison. C'est un disque qui est fait à la maison, avec des moyens très, très modestes. Et c'est un disque dont je suis très content. Enfin, c'est peut-être un peu... J'en suis très content parce que ça, c'est au plus proche de ce que j'ai senti, en tout cas. Et donc, bon, le spectacle, il est beaucoup plus ancien. Enfin, beaucoup plus ancien. Il est ancien par rapport au disque, mais moi, j'aime bien faire le disque après avoir rodé des chansons en scène, parce qu'on finit par trouver des solutions à des tas de petites... des choses qui sont peut-être du détail, mais c'est comme un tableau. Il y a toujours une petite chose qu'on peut améliorer.
Surtout que le spectacle, on peut l'améliorer, mais le disque, une fois qu'il est fait...
Voilà, on y touche
donc
plus.
Donc autant qu'il soit le plus abouti possible moment de passer au studio. Quoi.
Exact. Donc il y a quelques chansons qui sont nouvelles, complètement nouvelles. D'ailleurs, la première, la Papa Vent du Vent, c'est un truc que j'ai fait cet été... parce qu'il nous manquait un petit peu une couleur, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une chanson un peu jazz manouche dans cet esprit-là. Puis bon, le thème, c'est l'histoire de Madoff. Je trouvais ça très drôle. Enfin, c'est peut-être terrible peut-être pour les gens qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans.
On en parlera parce que je l'ai mis.
J'ai vu ça.
Je l'ai mis en dernier en fait.
D'accord. Mais bon, il y a quelques chansons qui ne sont pas dans le spectacle, qu'on n'a pas encore mis, notamment le Sinai Song qui finit le disque.
Qui d'ailleurs fait référence à un autre spectacle. Enfin, ouais. C'est une chanson qui fait référence à un autre texte ou à quelque
chose. Ah oui, si, j'ai publié un petit livre de poèmes qui s'appelle Signe Sinaï. Mmh. Et oui, évidemment, parce que ça, je veux dire, ça transite entre les livres qu'on écrit, les chansons qu'on fait.
Il y a aussi dedans, je crois, il y a Zatopek qui est aussi.
On recite Zatopek.
Tu fais des clins d'œil à des personnages, en tout cas, que tu.
Voilà, il y a beaucoup de personnages, donc c'est des familiers, donc de temps en temps, il faut une petite réflexion. Voilà, mais donc en fait le spectacle il a déjà un certain temps, mais bon là, moi je suis très content de cette formule, c'est une formule en duo, on est tous les deux seuls sur scène, et d'ailleurs on va la présenter au Jam dans une semaine, enfin dans 10 jours là, le 22 janvier on sera au Jam en duo pour cette sortie de disque, mais qui est un petit, le disque c'est un petit peu voilà un condensé de toute cette aventure et puis un tremplin pour repartir plus loin aussi.
Donc on reparlera après de l'actualité des spectacles. Là, on écoute tout de suite donc un titre de l'album, La Vénus du Cap.
Non, c'est Sinaï.
Une fille qui marchait au désert a volé mon chameau. On a joué à la guerre, elle ne disait pas un mot. Elle a vidé le vent de mes poches, doublé le bleu de l'océan. Je ne voyais de proche en proche que des rochers blancs. Elle a quelque chose de l'ange qui sourit au grand portail. Qu'il semblerait que rien ne dérange ni la pluie ni les batailles. Et je n'ai trouvé qu'à me taire, effeuillé dans mon pré les pavots. Nous avons dormi tous deux par terre, chacun son sabot. Tout autour de moi, dans un battement d'ailes, dansait le Sinaï, le Sinaï, le Sinaï, le Sinaï dansait. Si je dois tenir ma langue pour entrer dans son pays, et si je dois brûler en silence à la vue de l'abbaye, que son nom dorme dans ma bouche comme un bouquet de feux de broussaille, meilleure sera sa peau sur ma couche après la chamaille. Je préméditais son empire, son jardin horizontal. Et du couteau de mon désir, je l'ai couché dans le sable. Mais elle a désarmé mon geste, et dans ma nuit enlacé l'enfant. Celui en moi qui court et qui peste, est-ce que tu m'attends? Tout autour de moi, dans un battement d'air, dansait le Sinaï, le Sinaï, le Sinaï, le Sinaï dansait.
Eh ben bon, voilà, on s'est juste. Je me suis gouré de titres. Hein, on a passé en revue celle dont on venait de parler.
Sinaï Song. Sinaï Mais ça Song. Devait être un petit peu dans ton esprit. Puisque
alors, c'est dans mon esprit parce
qu'on en a parlé avant.
Voilà, juste ce que je voulais te dire, voilà, c'est que, par exemple, ce titre-là, par rapport à tout ce que tu as fait, c'est ton sixième album ou cinquième plus,
Dixième.
Dixième album. Ouais. Ce morceau-là, je trouve qu'il est très significatif d'abord de la couleur de cet album, par le côté cristallin des sons, ces sons cristallins et cette espèce de luminosité qu'on retrouve dans tout l'album à travers les arrangements. Et pour moi, il me semble que c'est peut-être l'album que je préfère dans cet album ressemble à ce que j'ai aimé de mieux dans chaque album.
Ben merci beaucoup. Je peux dire que c'est vrai que les guitares sont très belles, elles sont très fruitées, on dira, quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a poussé à chanter différemment aussi, c'est-à-dire peut-être à chercher quelque chose de plus modeste aussi dans la voix, en tout cas de plus, d'accepter plus les failles, des choses comme ça, d'aller vers plus bas, d'aller chercher des choses plus...
Et c'est pas ce qui est flagrant, en fait, dans cet album, parce que moi, je trouve que tu n'as rien perdu de ta singularité, de ton phrasé, de ta singularité mélodique. On retrouve même tes slams qu'on retrouve toujours dans chaque album. Ouais, ouais. Tu as une manière une sorte de travail proche du slam, etc., qu'on retrouve aussi avec ces arrangements qui donnent une couleur. De toute façon, chacun de tes albums, c'est une espèce de tu prends des risques, on dirait, hein. On dirait quelque part tu cherches quelque chose de nouveau. Je me rappelle de ce très bel album que j'ai amené, dont on passera tout à l'heure aussi un album sur Robert Desnos. Il y a beaucoup de, tout à l'heure on parlait de rencontres, tu bien aimes sûr aussi à faire découvrir.
Bah oui, sinon ça vaut pas la peine. Il y a un chanteur cubain qui disait pauvre le chanteur qui ne risque pas sa corde pour ne pas risquer sa vie. C'était Pablo Milanés, je crois, qui chantait ça, ou Silvio Rodriguez, qui était pobre el cantor de nuestros días, de nos jours, qui n'ose pas risquer sa corde. On risque pas grand chose, alors autant c'est un endroit du risque, l'art, sinon on s'ennuie, je pense.
Non, mais en tout cas, chaque album apparaît vraiment comme quelque chose, une démarche particulière. Je me rappelle aussi de ce très bel album avec Yves Copin. C'était aussi encore
Vous avez parrainé, voilà. Un espèce d'album concept, comme on disait à une époque, autour des premiers pas de l'homme, quoi. Et évidemment très fantaisiste, hein, ça n'avait aucune prétention scientifique, mais voilà, moi j'aime bien les rencontres. Je crois que chaque album, c'est une rencontre. Bon, à la fois, je me donne souvent une sorte de, je sais pas, un échafaudage, une idée, un sujet, mais c'est ma sauce à moi, ça n'a pas d'importance si ceux qui écoutent ne savent pas. Mais par contre, il y a toujours des rencontres. Bah là, par exemple, la rencontre,
c'est le musicien.
C'est Olivier Roman Garcia qui est... Bon, d'ailleurs, moi, je crois pas au hasard. On s'est rencontrés dans un train. Entre Montpellier et Paris, on se connaissait pas. On se connaissait
mais
même pas
beaucoup,
de nom.
Beaucoup de choses pouvaient faire que vous pouviez que vous rencontrer.
Voilà. Et puis ça s'est passé. D'ailleurs, il a joué sur un titre du précédent album parce qu'on était on cherchait partout un flamenquiste. Je me suis souvenu qu'on en avait parlé. Il m'avait fait écouter des choses. Et puis voilà. Enfin, de fil en aiguille, je vais pas raconter toute l'histoire, mais on a commencé. D'ailleurs, on a fait un spectacle ensemble autour de René Char. Je l'ai invité j'ai monté un spectacle il y a 3 ans qui s'appelle Char Résistance, qui est autour des textes de résistance de René Char, qui est un spectacle de théâtre, en fait. Mais je me suis dit, tiens, voilà, il pourrait faire un personnage muet, mais tellement loquace avec sa guitare, quoi, comme un républicain espagnol qui serait dans un coin. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu. Donc on continue petitement à tourner ce spectacle, mais on continue toujours. Ça a été notre première chose ensemble. Et puis petit à petit, voilà, la scène. Et puis ce spectacle qu'on a retravaillé à partir de... On a beaucoup co-composé ensemble, cherché des idées. C'est quelqu'un de très généreux. C'est pas seulement son idée du service va beaucoup plus loin que la musique, quoi. C'est aussi, je sais pas, il a un sens de la scène, il a un sens de l'exigence par rapport au public. Ça, je trouve ça formidable. C'est rare, hein. C'est rare, c'est vraiment, j'insiste lourdement, c'est pas pour dérouler un tapis rouge, mais c'est quelqu'un de très généreux et très positif aussi.
On le sent, hein, cet album, tout comme notre travail sur René Char et le travail autour des feuillets d'hypnose, c'était, et d'ailleurs il fallait hein, qu'il y ait un travail, parce que c'est vrai que c'est une œuvre assez remarquable, même dans son écriture, hein, dans son mode de, dans le principe d'écriture et tout ça, hein, qui a été cette espèce de vie condensée.
C'était un petit carnet qu'il a planqué, d'ailleurs, je crois, dans un mur pendant des... Il a été le rechercher après la résistance. C'était des notes qu'il avait, qu'il pouvait pas garder sur lui, qu'il avait planqué. Mais ça, on sent l'intensité de la vie de ce moment-là, qui est extraordinaire, quoi. Quelque chose de...
Une forme d'écriture aussi qui dépasse tous les classiques.
Les critères classiques.
Mais qui est devenu
une petite note sur un chien. Ça peut être un accident qui est arrivé. Et puis aussi des moments terribles comme ce passage où il raconte la mort d'un de ses amis sous ses yeux, quoi, parce que c'est l'histoire de la mort de Roger Bernard, qui était d'ailleurs un poète lui-même, un jeune poète que Char avait pris un peu sous son aile et qui faisait partie de son groupe de résistance, et qui s'est fait prendre par imprudence de sa part, et qu'ils ont vu tué sous leurs yeux, et lui disant tous les regards se tournaient vers moi en implorant un signe de donner l'ordre du feu, et je n'ai pas donné cet ordre parce que j'avais donné cet ordre, c'est un village entier qui était pris en otage et qui était assassiné. Ouais. Quoi.
Donc, on ferait une émission entière hein, sur René Char.
Ah ben, on en a fait, j'en fais régulièrement sur Radio Clapas, voilà, ici aussi, on a consacré 2 numéros entiers sur Char, on aurait pu en consacrer 4. Hein.
Bon, attends, on écoute tout de suite, parce que...
Oui, allez, parlons un petit peu de l'album.
On écoute tout de suite La Vénus du Cap, parce qu'on s'est trompé de morceau, on a passé donc Sinai Song, et cette fois-ci, voici la Vénus du Cap qu'on avait promis.
C'était au temps de la tentation des Hottentots. C'était au temps où les marquis prenaient bateau pour aller pêcher la Vénus et des esclaves en plus dans les tribus d'Afrique australe ou du Transvaal, de l'ébène et des boys de première bourre. Et leurs copains, les bourgs. Elle était née en 1789. Cette année-là, on avait cru repeindre à neuf les oripeaux de la liberté sur un coin limité. Faut pas abuser des bonnes choses, pas d'overdose. Même si les humains naissent égaux en droit, ça dépend des endroits. Elle était pas née du bon côté. Sartia, Sartia, Sartia Bartman. Mais elle avait des deux côtés de quoi rendre la planète érotomane. Elle avait au bas du dos un badaboum à rendre badin, le dernier des badauds. Des rotondités qui disaient qu'on faisait pâlir la lune dépitée. Et qu'en balançant les mystiches de son artiche, elle traversait le bouche. Tous les hommes en restaient bouche, tes bouches, 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 tes bouches. Voilà t'y parle qu'un chirurgien de la marine britannique, un officier de sa majesté en mission scientifique, considérant comme un cas rare la taille de son pétard, un jour a kidnappé la belle, destination Babel. Comme les chercheurs manquaient déjà de subventions, ce margoule a en fait l'objet d'exhibitions. Elle fut montrée de foire en cirque à l'attention lubrique de millions de regards ébahis qui, de Londres à Paris, charmaient les foules et les rendaient ma boule. Elle avait sous la ceinture un jardinier, une île à faire baver les murs. Un commanditon qui d'un seul coup transfigurait un lombric en piton. Et pour rassurer les épouses rendues jalouses, on trouva l'argument. Chérie, à confesse, je mens, 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 je m'en vais. Hélas, ne survécut pas bien longtemps. Elle s'éteignit encore en fleurs à 27 ans. Et les savants du muséum procédèrent en summum à des moulages et des croquis de son astre de nuit pour garder trace d'un baigneur, d'un joufflu jusque-là jamais vu. Éminence exceptionnelle, on disséqua. Elle fut rangée au-dessus de la cervelle à Broca. Elle finit cul par-dessus tête. On enferma son chouette, sa somptueuse partie molle, dans un bain de formol. Puis sur une étagère, on oublia la pauvre Sartia. Elle avait dans son pays des amoureux qui guettaient sa marche éblouie,
quelques soupirants qui du ballon de sa charnure étaient heureux et qui regrettent sa pavane, bijou de la savane, en pensant à ce cul classé par Monsieur Q, 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 Monsieur Cuvier. Elle était pas née du bon côté, Satya, Satya, Satya Bachmann, mais elle avait des deux côtés de quoi rendre la planète érotomane. Elle était pas née du bon côté, Satya, Satya, Satya Bachmann.
Voilà, donc voilà, encore un titre qui...
Merci à David Venitucci, l'accordéoniste qui est venu nous visiter là, sur deux titres de l'album, là, qui est merveilleux, je trouve.
Ah ouais, là, ça, on est dans une balade là, absolument extraordinaire.
Ouais.
Donc, ton album aussi, c'est, je veux dire, en regardant les textes, d'ailleurs, il y a même une, dans l'impression des pages, on a l'impression que c'est une petite balade dans le monde aussi, hein, parce que tu vas chercher des personnages là au Cap, tu vas chercher des personnages au Moyen-Orient, ou tu vas chercher.
Oui, c'est de A à Z, je dis dans un petit texte, c'est, voilà, j'ai cru que le chanteur pouvait refaire le monde de A à Z, mais bon, c'est pas la peine, c'est pas le boulot des chanteurs, mais quand même, le monde l'interroge. Le monde par tous ses côtés. Donc effectivement, dans la pochette, on a mis beaucoup des cartes géographiques.
Ouais,
c'est vrai quand même qu'il y a des chansons. Bah, il y a des chansons qui parlent de l'Espagne, de la Palestine, de la Vénus du Cap, enfin de la Vénus Hottentote, qui parle. Enfin, c'est assez planétaire, je dirais.
Ouais.
Enfin,
on sait pas. Mais toi-même aussi, tu es, parce que tu es né, ou tu, en tout cas, tes parents étaient originaires d'Afrique du Nord,
d'Afrique du Nord, tout à fait, oui.
Vous êtes parti sur Paris, tu parles plusieurs langues, tu parles le russe aussi, je crois.
Oui, enfin, je le parlais, je l'ai appris, je l'ai appris au lycée, je sais pas ce qu'il en reste. Non, mais j'ai
espagnol,
toujours beaucoup aimé oui, mais ça a dû me former surtout que je pense que c'est parce que j'ai passé mon enfance dans un milieu très cosmopolite, en fait.
Ouais.
Je le dis dans une chanson du précédent album, j'ai fait une chanson d'ailleurs sur le, on habitait un bordel désaffecté. Mes parents avait à l'époque où Marthe Richard sous la 4ème République avait désaffecté des bordels avait fermé les maisons closes, comme on dit, pour voilà, on avait donné une partie à des études, des œuvres études, enfin des trucs genre le Crous aujourd'hui,
ouais, ouais.
Donc on habitait dans un, enfin quand j'étais tout petit, hein, ma mère était étudiante à l'époque, et il y avait dans ces maisons d'étudiants que des gens de tous les pays. Il y avait des Marocains, des Guadeloupéens, des Israéliens, des Suisses, des gens de partout d'Amérique latine. Donc c'était une sorte de brasserie. Et comme en plus c'était bon à l'époque de la guerre froide et tout, enfin il y avait une sorte d'ambiance de, je dirais, très fraternelle. Moi je n'y voyais rien de politique à ça, c'était pas du tout
quand on est gamin,
le message, c'était plutôt là ce mélange de culture, de cuisine, d'odeurs, de langues différentes. Ça m'a toujours beaucoup plu, hein. Et puis après, ben au fur et à mesure que j'ai lu, que j'ai de plus en plus, j'ai été emmené vers ça, vers le fait que bien sûr, je ne renie pas l'idée de la France est ma langue, hein, c'est mon territoire. Mmh. Mais d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus ma langue parce que je venais avec des parents qui parlaient arabe entre eux et qui ne voulaient pas que je parle arabe. Mmh. Donc c'est, la langue, c'était une sorte d'enjeu pour se faire reconnaître, pour trouver sa place ici, très important. D'ailleurs, c'est un truc, c'est banal, hein, de dire ça. La plupart des fils d'immigrés, souvent, ont une sorte de challenge à mieux parler la langue. Et là, j'ai grandi là-dedans. Alors, il y a les deux choses tout le temps. À la fois, j'adore cette langue, quoi, du français, mais en même temps, et ben, je m'interroge tout le temps à travers cette langue sur qu'est-ce que c'est que d'être un humain, quoi. On n'est pas forcément d'un pays particulier, quoi.
Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me ramène au débat, soi-disant débat, qui intéresse certains hommes politiques en ce moment sur l'identité nationale, où je me dis,
il vaut mieux
se poser la question de savoir ce qu'est un homme, un être humain, quoi, plutôt que, c'est encore un autre débat dont on pourrait aller loin.
Alors, laissons-leur ce débat.
Ouais. T'as une actualité de spectacle. Hein. Je vois, bon, le 18 janvier, là, tu seras à Paris pour les gens au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Bon, ça, c'est pour les gens qui peuvent, qui seraient sur Paris. À ce moment-là, ça peut être intéressant de le savoir.
Oui, bien sûr. Mais ça, en plus, je trouve qu'à l'heure d'Internet, ça communique beaucoup entre les gens. Si quelque chose plaît, ben on envoie un mail à un copain qui est... On joue à Nantes vendredi prochain, donc dans 4 jours. On joue à Paris lundi qui suit, le 18. Et on joue au Jam, c'est, je pense, ce qui intéresse le plus les Montpellierains.
Voilà, pour les Montpellierains, pour nous, là, pour, notez bien, prenez un stylo, prenez le temps de noter ça. Le 22 janvier, au Jam.
Voilà.
Donc,
mais je disais Internet.
Avenue de la Liberté, là-bas.
Ouais. Je reviens sur Internet. Je trouve que c'est, bon, à la fois, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire, bon, c'est un espèce de brouillamini et très étrange.
En mais fait, en même ça temps, dépend comment on l'utilise.
Voilà, ça dépend de ça.
Mais c'est comme
temps,
la télé.
Je pense que pour toute une catégorie de chanteurs un petit peu, je dirais, à la marge. Enfin, pas par volonté, mais tel qu'on. Enfin, je pense qu'on est toute une génération. Tu parlais d'Alain Leprest tout à l'heure. Mmh. Mais enfin, bon, c'est des gens, évidemment, reconnu par une certaine frange, mais qui passe rarement en radio.
Bien sûr,
qui, voilà.
Bien sûr.
Donc ben, tout ça, ça circule beaucoup par Internet quand même. Ça, c'est une chose, c'est une sorte de petit ballon d'oxygène pour toutes les productions indépendantes, pour tous les gens qui continuent à travailler un peu artisanalement et qui tiennent à cette idée-là. C'est vrai que ça aide beaucoup parce que là, par exemple, la soirée parisienne n'est remplie que par Internet. Mmh. On ne fait pas autrement. Quoi. On ne fait pas d'affichage de rue, c'est très bien, ça épargne des arbres. Mais surtout, ça épargne aussi une surenchère de visuel. Mais par contre, on compte sur la communication entre les gens. Quoi.
Les réseaux, hein.
Les réseaux.
C'est bien. En tout cas, ouais, non, mais bien sûr que comme tu l'as dit, c'est le meilleur et le pire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil de communication, il me semble, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, tu as toi-même un site.
Absolument. Alors,
qui m'a servi
je
à
donne
nourrir
l'adresse.
Un petit peu.
Bah, il suffit de faire Michel Arbat sur Google, c'est le premier site qui apparaît. Voilà.
Voilà,
et on peut, par là, avoir toute l'actualité, les dates de concert, les dates des ateliers d'écriture.
Mais on trouve beaucoup de pages hein, sur Michel
oui,
Arbat.
Bah, parce
hein,
que
c'est
avec le temps, on a fait beaucoup de choses.
Ouais. Et puis voilà des gens qui ont eu envie d'y mettre un petit peu leur grain de sel de ce qu'ils pensaient un petit peu de toi. Alors c'est rigolo d'ailleurs. À un moment donné, en fouinant un petit peu, j'ai cherché, né longtemps après les Australopithèques. Alors ça, ça a été marqué par l'album On a marché sur la Terre.
Oui, oui, certainement.
Donc voilà, il est né en 49. Oh, il ne fallait pas le dire.
Non, ça ne me gêne pas du
voilà,
tout.
Voilà. Instrument pratiqué, bandoneon, guitare, violon, percussion, chant. Donc bandoneon.
Ah d'accord.
Oui, comment tu en viens au bandoneon ?
Comment je suis venu au bandoneon ? Parce que je crois que c'est un coup de foudre pour, à l'époque, le Quartetto Cedrone. Quoi, qui...
Ah ouais.
J'ai trouvé ce son extraordinaire. Après, j'ai eu envie j'ai acheté. Bon, ça serait long de raconter l'histoire, mais enfin, bon, voilà, j'ai appris. J'ai rencontré par un hasard qui n'était pas un hasard une fois dans une radio. C'était sur une émission à France Culture. Juan José Mussolini, qui est un très très grand bandoneoniste. Par hasard, c'est-à-dire que moi, je venais pour jouer une chanson en m'accompagnant au bandoneon et le type me dit les micros pour le bandoneon, je les place où ? Et j'avais pas dit que je venais avec un bandoneon, donc je me dis mais c'est pas possible, comment il sait qu'il y a un bandoneon ? Il me dit vous n'êtes pas Juan José Mussolini ? Je dis non, pas du tout. Et là, j'apprends que c'était Mussolini qui venait à l'émission. Donc voilà, ça a été le début d'une rencontre. Il a été mon maître, on peut dire, pendant des années. Maintenant, bon, je rougis un peu parce que je vis sur mes rentes et que voilà, je me considère un petit peu comme un escroc instrumentiste.
Oui,
mais voilà,
quelque part,
hein. Et j'ai quand même ce son, il est toujours avec moi. Et puis voilà, ouais. C'est un instrument que j'aime beaucoup. Quoi.
On va écouter, tout à l'heure on parlait des gens qui nous ont quittés un petit peu trop tôt en ce début d'année. Ce matin on a appris la disparition de Mano Solo. Et en début d'année, le 1er janvier, on a appris la disparition de Lassa. D'ailleurs, Divergence FM a repassé une très belle interview qu'avait fait Manu de Lassa, qu'on a pu entendre. Il y a un hommage qui lui a été rendu. Voilà, on va lui rendre encore un hommage à travers un titre de son deuxième album. On écoute Lassa.
Palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca. Ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma.
Très belle interprétation. Je vois que Michel, tu as été
conquis. C'est très beau. Hein, oui, c'est très émouvant cette voix. Ouais.
Voilà, ben voilà, une voix qu'on continuera quand même d'entendre malgré tout. Voilà, sur les ondes de divergence, mais j'espère ailleurs. Alors, je reviens à ton album qui s'appelle De A à Z. Alors, tu me disais tout à l'heure, peut-être que des fois on rêve, tu dis, d'ailleurs tu le dis quelque part, là je me suis pris pour un oiseau, une sorte de matin pêcheur qui aurait voulu refaire le monde de A à Z. Mais De A à Z, est-ce que c'est pas une manière aussi de t'explorer De A à Z, puisque ton nom commence par A,
oui,
finit par Z.
Oui, bien sûr, c'était bon, c'est le truc un peu facile. Oui. Au début qu'on a cherché un titre, et finalement c'est pas ça, c'est rien de... Oui, c'est très prétentieux de dire qu'on se livre complètement. Je pense qu'on n'y arrive jamais. Enfin, heureusement, c'est ça qui fait marcher les artistes.
Ouais, et pourtant, quand on lit ces morceaux, et tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est un petit peu quelque quelque chose de toi qui ressort dans toutes ces chansons. C'est une espèce de tour d'horizon. Tu parles d'un oiseau, mais quelque part, tu survoles ta propre culture, tes propres voyages.
Je suis allé chercher dans des tas de coins sto bizarres, comme dirait Boris Vian, que tu aimes bien. Oui, mais bon, je pense que je ferai toujours le tour de ces coins sto bizarres sans fin, parce qu'il y a toujours des portes derrière les portes, et on n'a pas fini de trouver. Donc, c'est pas exhaustif de A à Z. Ça veut dire aussi, peut-être, dans mon idée, c'était plus quelque chose de la radicalité.
Est-ce que c'est pas une forme d'introspection de tes propres...
Oui, en fait, mon idée de départ pour le spectacle, après le disque, ça a été, de résumer tout ça, mais l'idée, c'était, ça s'appelait, c'était une sorte de musical, quoi, un musical, mais qui ne marche pas. C'est un musical où le type essaye constamment d'essayer de faire marcher la machine, mais c'est vrai que la scène a parfois un côté un peu ridicule ou un côté tellement décalé par rapport à la vie, par rapport à la réalité. C'est ça qui fait marcher, je pense, Les artistes qui m'intéressent le plus sont les gens qui cherchent à essayer d'abolir cette frontière et à essayer d'amener de la vie, parce que c'est un condensé de codes et d'artifices, la scène. Mais le disque aussi, d'ailleurs. Hein. C'est très difficile de mettre c'est comme le cinéma. Le cinéma, vous pouvez décomposer sur l'écran et puis, je sais pas, faire du pied à votre voisine sous la table qu'on voit pas. Ça change rien pour le spectateur. Ce sont que des conventions. Quand on arrive à les bousculer un petit peu, il y a des choses qui se passent, il y a des choses intéressantes qui se passent. Bon, enfin, pour aller vite, disons que c'était une manière de secouer un peu le cocotier du spectacle de chansons. Quoi. Parce que moi, je me suis toujours senti un petit peu à l'étroit dans le spectacle de chansons. J'ai toujours aimé faire des choses un peu théâtrales, mais aussi,
D'ailleurs, tu t'es jamais content. D'ailleurs, on dirait que tu passes d'une forme d'expression artistique à une autre, constamment, mais tout en t'éloignant trop, ou alors ils ne sont pas trop éloignés.
J'aime bien être aux frontières, j'aime bien être aux interfaces, comme on dit aujourd'hui. J'aime bien ces endroits-là. C'est pas toujours confortable.
Il y a aussi un travail que tu fais, c'est la transmission, puisque tu animes aussi des ateliers.
Oui, j'anime des ateliers, bien sûr. Mais c'est parce que ça m'intéresse beaucoup l'écriture, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que quelque chose nous accroche, qu'est-ce qui fait que quelque chose nous accroche moins ou nous paraît un petit peu procédé. Voilà. Donc ça m'a toujours intéressé depuis très longtemps. J'ai écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, dont je vais faire une nouvelle édition très 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 augmentée, comme on dit, avec beaucoup de nouveaux chapitres au printemps. Là, c'est un
bouquin sur l'écriture.
Oui, qui s'appelle Moulin du Parolier, qui a d'ailleurs, c'est la quatrième édition qu'on va faire. Donc, en 15 ans, il s'est beaucoup. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Et ça m'intéresse parce que il y a quelque chose de. La littérature, ou l'écriture, on va dire plutôt, pas que la littérature, l'écriture en général, c'est quelque chose qui met en jeu ce qu'on a de plus profond, c'est-à-dire le langage, quoi. Il n'y a pas autre chose. Hein. Donc, ça m'intéresse à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire que dans les ateliers d'écriture, d'ailleurs, les gens qui viennent sont des gens de niveaux très, très différents, et je m'en fiche complètement parce qu'en fait, chacun trouve son chemin à son niveau, et même c'est très intéressant que des professionnels se mélangent à des amateurs ou des semi-amateurs. D'ailleurs, j'en fais un à la fin du mois de janvier à Montpellier, si c'en a que ça intéresse. Il y a un week-end.
C'est où ?
C'est dans le centre de Montpellier. Il suffit de... on s'inscrit
sur le site, pareil.
Week-end. Je ne sais plus la date. Je crois que c'est 30 et 31 janvier. Ouais. Hein, on devait le faire, d'ailleurs, le week-end dernier. Et puis la neige nous a... Donc, il y a encore de la place.
Okay. Alors, si vous voulez un petit peu libérer votre goût pour l'écriture, parce que c'est un peu ça
c'est
débloquer
aussi
des situations.
Bien sûr. C'est essayer de débloquer, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui nous empêche. Et ce qui nous empêche souvent d'écrire, c'est souvent les clichés, c'est-à-dire les choses toutes prêtes. Hein. Justement, on se retrouve tout nu parce que, on pensait que c'était très bien, c'était joli, c'était poétique de dire ça comme ça.
Puis la peur aussi
de se mettre un peu tout nu aussi, bien sûr. Ouais. Mais justement, moi je pense qu'on fait des bonnes chansons, pas forcément en se mettant tout nu trop vite. D'ailleurs, c'est pas très intéressant quand on se met tout nu trop vite. Moi, j'aime bien qu'on se déshabille lentement. Et il faut aussi laisser la place. Enfin, souvent, c'est en prenant des biais techniques ou en se donnant des contraintes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a envie de dire. Hein, que le sens revient au galop, qui refait surface à travers ça. C'est-à-dire les contraintes, ce sont souvent là pour un petit peu essayer de tromper la vigilance de cette pudeur normale que tout le monde a, et puis de cette envie forcenée de dire quelque chose. Dire, allez, je veux parler de ce problème, ou je veux parler de cette émotion, etc. Et ça ne marche pas comme ça, parce que c'est toujours insaisissable, l'émotion, c'est toujours... Les choses profondes sont difficiles à cerner, et au contraire, si on se met modestement, comment dire, au service des mots, c'est-à-dire qu'on accepte que les mots sont eux-mêmes des espèces de bâtons de dynamite, bourrés de tas d'autres sens possibles. Quand on commence à, si vous voulez, c'est une espèce d'humilité qu'on doit avoir devant les mots qui nous amène à trouver 10 fois plus de sens que ce qu'on voulait dire.
Et toi-même, quand tu écris, comment arrivent tes formes d'écriture,
tes manières d'écrire?
Est-ce que d'abord c'est une souffrance ou un plaisir? Est-ce
non.
que la souffrance succède à l'un à l'autre?
C'est pas une souffrance. Non, c'est un plaisir. Ça doit être un plaisir. Je pense que ça doit... Bon, ce qui est un peu souffreteux, pénible, c'est quand on mène, quand on doit faire avancer le bateau jusqu'au bout, parfois. Hein, c'est comme, j'ai écrit des choses très différentes. J'écris du théâtre, j'écris un long récit. Mais à chaque fois, ce qui est différent, c'est d'amener jusqu'au port le bateau. C'est-à-dire qu'on a plein de bonnes choses. Et là, on pédale sur deux verres. C'est
donc
laborieux.
Il y a des moments difficiles.
Il y a des moments. Mais il faut... Moi, je me dis, si c'est difficile, laissons de côté, ça va venir à un moment, on trouvera toujours la solution. Les solutions arrivent, justement, si on a cette espèce de modestie par rapport aux mots, parce que les mots sont chargés de tellement de sens différents que parfois, je me dis souvent, tiens, là, il y aurait peut-être un jeu là, entre deux sens, mais il ne faut pas essayer de résoudre trop vite. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait les mauvais jeux de mots. Hein. C'est-à-dire, alors je la place bien, puis là, vous avez vu, j'ai bien fait, hein. Vous avez compris
l'astuce. Tu as travaillé Robert Desnos aussi.
Desnos, il avait une espèce de spontanéité extraordinaire, hein, que peu de gens étaient doux.
Il utilise beaucoup la fausse contre-pétrie.
Par exemple, c'est Michel Deris qui raconte s'être baladé dans Versailles. Il s'était fait enfermer dans le château de Versailles avec Desnos. Et Desnos a passé la nuit à sortir des vers qu'il improvisait comme ça.
Ah ouais.
Et Léris était complètement fasciné par ce phénomène, quoi. Mais il s'était tellement, faut dire, Desnos s'était nourri de beaucoup de poésie, hein. Il connaissait des milliers de vers par cœur. Donc ça aussi, c'est très important, l'imprégnation. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas seul, on a...
Il s'était beaucoup inspiré d'un peintre, d'un sculpteur peintre... surréaliste aussi, qui était un des précurseurs.
Desnos,
Marcel Duchamp.
Ah, Marcel Duchamp, oui. En fait, ces fameuses contre-pétries, c'est l'histoire de Rossellavi, là.
Rossellavi était
un personnage inventé par Marcel Duchamp. Mais ce que je voulais dire, c'est que en se laissant porter par les mots, les solutions venaient d'elles-mêmes. Et souvent, je dis souvent que moi, je n'aime pas finalement le jeu de mots. Au sens le mot d'esprit, quoi. C'est quelque chose, c'est très français et qui m'agace un peu. C'est-à-dire, il y a deux façons de jouer avec les mots. Il y a une façon qui serait au service des mots, c'est-à-dire de dire, voilà, dans ce mot-là, c'est du minerai, on peut en extraire beaucoup de choses, quoi. Mais il faut être au service du mot. Si on se sert des mots pour se faire briller soi et dire, regardez mon bel esprit, regardez quel homme brillant vous avez devant vous, je pense qu'on se plante complètement. On n'arrive pas au bout du circuit. Ça me rappelle le film Ridicule dans lequel joue Charles Berling. C'est un peu ça le mot d'esprit pour moi. C'est on brille, quoi. On veut montrer. Alors, on peut être très jouissif en trouvant des mèches partout. Ça demande du temps, du travail. Enfin, du travail pas au sens besogneux. Ça demande de calmer son impatience et de se dire bon, prenons le temps de voir tout ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, quoi. Dans cette histoire. Alors, je me dis, tiens, je vais parler de... Je ne sais pas, par exemple, je vais parler de Zatopek. Déjà, le mot Zatopek, quel nom magnifique, ça pète, ça claque. Et je me dis, je vais chercher tout ce qui est à côté de ça. Et puis, je vais faire ramasser mon grain jusqu'à ce que j'arrive à ce qui me plaît.
Bah, écoute, je pense qu'avec toi, il faudrait qu'on fasse une émission pour chaque thème qu'on veut aborder. On va écouter un extrait de l'album, justement, « On a marché sur la Terre ». Je sais que ce morceau-là, on en a parlé tout à l'heure, le morceau que j'ai choisi, tu l'as réenregistré.
Oui, c'est la Litanie des Mâles. Oui. Je l'ai enregistré d'ailleurs dans l'avant-dernier album, parce que j'aimais bien cette chanson et je trouvais qu'on pouvait faire mieux. Voilà.
Donc
le luxe. On se permet le luxe de réenregistrer des chansons déjà enregistrées.
Voilà, rien ne t'interdit de te repriser toi-même.
Allez.
Voilà.
Reprisons-nous.
Mais là, on écoute la version originale.
Où que tu vas, d'où que t'es, où que tu vas, d'où que t'es. Où que tu vas, qui que t'es, qui que t'es donc, qui que t'es, qui que tu vas, qui que t'es, qui que t'es donc, qui que t'es.
Je suis qu'un insecte qui pousse sa miette de pain dans la mousse, dans les steppes, les déserts, les tranches des fuseaux horaires. Je suis qu'un insecte qui pousse sa miette de pain dans la mousse, dans les steppes, les déserts, les tranches des fuseaux horaires. Je viens du Cap du Sud, Tunis, Tolède et Talmud, ma belle elle est au nord, le nord et le sud s'ignorent. Je viens du Cap du Sud, Tunis, Tolède et Talmud, ma belle elle est au nord, le nord et le sud s'ignorent.
Où que tu vas, où que t'es, où que tu vas, où que t'es, où que tu vas, où que t'es, où que tu vas.
Signora mia, rendez-moi ma boussole, faites-moi fleur, sortez-moi du sous-sol, ma belle étoile, sauvez-moi de mes calculs, la mécanique est dépendue. Dans ce chantier, rien ne demeure intact, la guerre éructe, ses scuds et ses impacts, le nord, le sud parlent avec des gants de boxe, dans leur marée d'équinoxe. Qu'un insecte qui pousse sa miette de pain dans la mousse, je roule ma boule à l'épaule, je patauge entre les deux pôles. Je suis qu'un insecte qui pousse sa miette de pain dans la mousse, je roule ma boule à l'épaule, je patauge entre les deux pôles. Signora mia, rendez-moi mon sextant, ma petite voile, rendez-vous prétextant, j'irai germer dans vos prés et vos étangs. Et butinez vos printemps. Ma flamandelle, entre vos doigts lactés, serrez mes ailes, allons jusqu'à lactée pour un baiser, bazardons tous nos lexiques dans ce foutoir galactique. Je suis qu'un autodidacte, j'ai déjà passé l'entracte, potasser les poutous entre Arras et Tombouctou. Qu'un autodidacte, j'ai déjà passé l'entracte, potasser les poutous entre Arras et Tombouctou. Quel architecte, au regard laconique, braquant direct, c'est lampine actinique sur mes petits pas dans le pays boréal, vers ma fourmi idéale. Quel architecte, au regard laconique, braquant direct, c'est l'empine actinique sur mes petits pas dans le pays boréal, vers ma fourmi idéale.
Où que tu vas, où que t'es, où que tu vas, où que t'es, où que tu vas.
Je t'attelle à ma vie, dit-elle, 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 je t'attelle à ma vie.
Voilà, donc c'était un extrait donc d'un mini CD hein, de 4 titres qu'on trouvait avec le livre Retrouver le Sud.
Voilà, moi je suis un homme de remords, alors j'ai fait beaucoup de versions. En fait, ce livre, il est paru une première fois avec un 4 titres et ensuite il est reparu avec une version avec le disque complet de 12 titres. Voilà, quoi. Et entre temps,
la première version.
Alors c'est moi qui ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est pas du tout la litanie des mâles qu'on a entendu, voilà. C'est la fille du Nord. Mais effectivement, il y a eu deux versions, quoi. Et c'est vrai ce que tu disais, j'essaie de m'approcher de choses plus acoustiques. Quoi. Là, c'était un arrangement qui était peut-être un peu plus synthétique. Et puis, on l'a réenregistré après, d'ailleurs, avec Rock avec Claude Barthélémy et Steve Sheehan, dans une version beaucoup plus acoustique.
Donc, c'était pas faux, il y a bien eu une
oui,
une
oui, arrêt, bon, c'est pour les exégètes. Là, voilà. Tout le monde s'en fiche.
Alors là, on va parler. Là, je vais être. On va passer à titre. Il y a un film qui vient de sortir sur Gainsbourg. Il y a une bande originale de ce film qui est sortie. Et là, ce qui est intéressant, parce que tout à l'heure, on a évoqué Boris Vian. Je sais aussi que tu aimes beaucoup Boris Vian, puisque tu as aussi fait des petites interventions sur Radio Clapas.
Oui. Enfin, en fait, c'est une émission régulière qu'on fait tous les 15 jours avec la Brigade d'intervention poétique.
Ouais, voilà, groupe que j'en parle aussi.
Je peux dire un mot.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est un groupe donc, de comédiens amis que j'ai créé à peu près. On s'est réunis depuis 6-7 ans.
Le BIP.
Et la BIP. Les BIP. couleurs. Et on se dit, enfin, la mission qu'on s'est donnée, c'est de dire la poésie partout, par cœur et par surprise. Voilà. Donc avec ces trois mots, on a tout. Et entre autres, depuis 2 ans, comme on essayait de rayonner un peu plus, je me suis dit d'ailleurs, en pensant à Desnos, qui était un pionnier de la radio, pourquoi on ne ferait pas une émission de radio en racontant la vie des poètes. Donc en fait, c'est ça qu'on fait. Tous les 15 jours, on prend... en général, on consacre plusieurs émissions à un poète, parce qu'une vie de poète, hein, c'est riche. Hein, y a plein de choses à raconter. Et on a fait comme ça, déjà 19 émissions.
Pas rencontré notre ami Bernard Alexandre dans ce...
Non, mais je sais qu'il travaille, mais souvent c'est comme ça les radios, hein, on se croise, on fait, l'un fait un truc, l'autre fait autre chose. Mais mon idée, c'était quand même de partir de l'histoire de la vie des poètes, raconter leur vie. C'est un roman, la vie des poètes, quoi, quand on voit Charme et Desnos et tout ça. Donc on fait ça régulièrement et on fait de temps en temps des rediffusions, évidemment. Mais là, d'ailleurs, le prochain sera. On a fait une émission en hommage à Armand Gatti, là, il y a un mois, puisqu'il est venu en novembre à Montpellier. On a fait 2 émissions sur sa vie, qui est quand même un sacré roman aussi, hein, résistant à 17 ans, condamné à mort, gracié à la dernière minute. Enfin bon, on ne fait pas l'émission sur Gatti. Et la prochaine sera sur Roland Dubillard. Donc au mois de février.
Sur qui tu as déjà fait.
Oui, d'ailleurs. Mais bon, c'est un hasard. Ah. Enfin, c'est comme ça. Mais bon, on a fait des tas de gens. On a fait des gens aussi différents que François Villon, Marina Tsvetaeva, Vian, évidemment, Prévert, Desnos, Cadou.
Je t'avais demandé si tu pourrais me faire un texte de Boris Vian. Alors, t'en as choisi.
Mais hein. Avec plaisir. Un jour, il y aura autre chose que le jour, une chose plus franche, que l'on appellera le jodel, une encore translucide comme l'arc-en-son que l'on s'enchassera dans l'œil d'un geste élégant. Il y aura l'oreille plus cruelle, le volutin plus dégagé, le comble moins sempiternel, le baouf toujours enneigé. Il y aura le chalamondre, l'ivrunini, le baroïque et tout implanté d'analogne. Les heures seront différentes, pas pareilles, sans résultat. Inutile de fixer maintenant le détail précis de tout ça, une certitude subsiste, un jour, il y aura autre chose que le jour.
Ben, bravo, ça me fait plaisir. En plus, on retrouve dans ce texte peut-être cette espèce d'imaginaire totalement singulier et particulier sur lequel évoluait Boris Vian dans ses œuvres, puisque quand on lit ses œuvres, quand on lit L'herbe rouge, quand on lit L'écume des jours, il faut arriver à voir le monde. Il faut se débarrasser du monde tel qu'on le connaît, quoi. En tout cas, tel qu'on le connaît consciemment.
Voilà, c'est ce que disent un peu tous les poètes, quoi. Il y a le monde qu'on voit, et puis il y a un autre monde aussi qui est derrière, qui est là tout le temps, et qu'on essaye de faire communiquer les deux.
Et puis quelque part aussi, le miroir, les choses qu'on ne veut pas voir.
Qu'on ne veut pas voir, aussi.
Voilà, en tout cas, c'est un très beau texte. Alors, ça permet d'introduire cette chanson qui va arriver, qui est un mélange de... Parce qu'on sait que Gainsbourg, s'il a été inspiré, il le dit, hein, la seule personne qui prend comme référence et dont on sait très bien qu'il est celui qui lui a fait découvrir cet aspect de la chanson, c'est Boris Vian. Gainsbourg revendiquait comme influence, comme seule influence, Boris Vian. Et Gainsbourg a fait une chanson, un Toxicated Mind, et c'est Je bois de Boris Vian. L'idée a été faite pour ce film de mélanger les deux chansons, Je bois et la chanson de Gainsbourg.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron, mon smoking, les chauves-souris au plafond du living room.
Écoute.
Le
la vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond.
Et toi, dis-moi quelque chose, tenant comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron, le smoking aussi pâle que le plafond du living room.
Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Me dit plus grand chose, toujours
je bois.
Ces éléphants roses, ces araignées sur le plastron,
systématiquement.
Ces chauves-souris au plafond,
tous mes emmerdements.
Je bois,
je bois,
je bois,
je bois, je bois.
Voilà, c'est incroyable, c'est ce mélange des deux chansons. Juste pour continuer la conversation qu'on avait hors micro, un jour, un commis qui vient voir, un commis d'un magazine qui vient voir Borisian pour qu'il écrive un texte, une critique sur une musique. Borisian fait « Ah ouais, donc il avait oublié », il fait le texte en quelques minutes et puis il le donne. Et le jeune qui dit mais c'est absolument incroyable, quoi. Comment vous pouvez écrire comme ça en quelques minutes, en cinq minutes, un texte? Et Borisian dit non, c'est pas en cinq minutes, c'est en cinq minutes plus 20 années de travail derrière, quoi.
Exactement.
Donc un superbe film là qui sort, Les vies héroïques de Gainsbourg, et dont on vient d'entendre un extrait de la bande originale du film, qui sort un album qui est sorti en deux versions, une version simple et une version double album, où il y a beaucoup de choses complémentaires qu'on entend dans le film qui sont parues sur le CD. Voilà, donc, allez, on continue cette fois-ci, on revient à l'album de A à Z. Alors, je le disais, hein, moi, j'aime beaucoup cet album. Je trouve que dedans, tu y trouves ton harmonie, en fait. Hein, cette rencontre, je trouve qu'elle met beaucoup en valeur tes textes, mais aussi ton travail vocal. Et voilà, tout cet accompagnement musical, c'est le meilleur fleuve ou la meilleure rivière que tu aies trouvé pour transporter un petit peu tes mots là, avec cette rencontre avec le musicien. J'insiste, mais c'est
Olivier Roman Garcia, faut dire son nom.
Ouais. c'est vraiment un album qui se laisse écouter d'un bout à l'autre avec un grand plaisir, et on écoute tout de suite Canon d'Espagne, un très beau titre aussi.
J'ai lu dans Libé que les nonnes et les libellules se réjouissaient qu'à Rome une nouvelle bulle, avec l'accord du pape et des soupapes et des papous, allait canoniser un paquet de candidats au bout de 40 ans de mort obscure. Dans les caveaux d'Espagne, ça sent honnête et sans tonsure, irait bientôt en pagne au ciel jouer dans l'harmonie des anges, après avoir fait du gringo phalange. En deux mots clés, copain du vieux Franco, oh 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 oh, au jeu de l'auréole, allez tenter le banco. Loin de moi l'idée de railler les plaisirs posthumes, les morts ont aussi le droit de porter des plumes, des rivières de diamants et des dessous coquins mignons, un disque de lumière derrière la tête vaut un chignon. Mais alors qu'on béatifie d'Oviedo à Giron, tous les bouffeurs de pissenlits ont droit à la couronne. Qu'on soit curé franquiste à Badajoz ou militant à Nar au nom de la rose, s'il suffisait de choper dans la carcasse un vieux pruneau pour être béatifié, ça ferait du populo. Ah ah, ah, ah. Et là, 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 je dis non, non, non,
Je ne marche pas, sacré nom d'un chien. Je n'entre pas dans ce marché de canons. On veut nous vendre une paire de seins pour le prix d'un. On veut nous vendre une paire de seins pour le prix d'un. Et si la folie des humains n'a pas pris de rides, si Bagdad est bombardé bien mieux que Madrid, en ce temps-là, quand les républicains traversaient l'Èbre, ils se faisaient canonner comme dans un safari des zèbres. Canonner ou canoniser, dites-moi la nuance, les souvenirs carbonisés ont-ils des indulgences, qu'on soit l'homme foudroyé d'Estramadur ou la pauvre bonne sœur collée au mur. Qu'on soit dans les phalanges ou la brigade d'Ourouti, pour fabriquer de la mort, c'était les mêmes outils. À tout bien peser, je comprends que des catholiques n'apprécient pas d'être mêlés au père lacolique. Je veux dire à ce vieux Mérou et son opus Dei, et s'il faut pour Benoît remettre des points sur les i, qui sont les saints de Guernica et ceux de la guerre civile. Va-t-on canoniser Lorca ou le Garotteville? C'est un point épineux, ça j'en conviens. Saint-Pierre dira filon, j'entends qu'on vient. En voyant débarquer 500 nonnettes en mini-jupe, les anges tiendront-ils tête à ce marché de dupes? Ah, 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 j'espère bien qu'ils diront non, non, non. Nous ne marchons pas, sacré nom de nom. Nous n'entrons pas dans ce marché de tordus. Ne mélangeons pas la tête et le cul pour le prix du. Ne mélangeons pas la tête et le cul pour le prix du. Oh, 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 don't let enemy don't follow me.
Voilà, donc là, il y a une, comme tu le disais, une référence.
Clin d'œil à Brassens, évidemment. Oui, oui, c'est parti de là au départ, que c'était parti de, puis d'un petit mouvement d'humeur sur cette histoire. Mais en fait, c'est pas du tout bon. Tu disais hors micro engagé. Oui, mais en même temps, bah, ça renvoie un peu. Le truc qui est un peu terrible, c'est que les pauvres républicains qui ont été massacrés en masse, eux, ils ont pas le droit à une petite place au paradis, quoi. Ouais. Donc il y a quelque chose d'un peu impudique de la part de cette demande de canonisation de l'Église espagnole, de canoniser tous les... C'est aussi horrible d'un côté que de l'autre, parce que maintenant qu'on regarde les choses avec le temps, c'est aussi atroce, quoi, ce qui s'est passé des deux côtés, quoi.
Bien sûr.
Voilà. Donc c'est plutôt, moi, vers ça que... Mais c'est peut-être aussi un changement d'époque, parce que dans l'époque, j'aurais peut-être été beaucoup plus intraitable sur la question, quoi.
Ouais. Donc on va passer, on va quand même revenir, on va continuer sur cet album, parce que malgré tout, c'est une balade, tout à l'heure on en parlait, hein, t'as mis une carte géographique dans l'album, et on vient de faire un petit tour en Espagne, on se balade comme ça à travers les clins d'œil aussi, à travers tes références artistiques, là t'as utilisé Brassens, et de temps en temps, on y trouve, alors tout à l'heure on parlait de slam, on est proche, on est quelque part, tu réinventes une forme de slam rap, ou enfin on sait pas.
Oui, je sais pas comment caractériser le truc, mais enfin moi j'aime toujours le côté rythmique dans les mots, donc ouais. Et c'est vrai que bon, je suis pas un rappeur du tout, j'ai pas les codes du rap, je sais pas faire ça, mais par contre ça me plaît dire des textes rythmiquement, quoi, et bon bah voilà, ça a donné, je sais pas comment faut l'appeler, quoi, des schraps.
Ouais, des schraps, ouais, c'est pas mal. C'est un mélange de chansons et de rap, ouais.
C'est un début de schrapnel.
Et alors il y a aussi des jeux avec les mots. Alors c'est, je dirais pas des jeux de mots, mais des jeux avec les mots, hein. Et c'est le cas de la chanson qu'on va écouter, Méli Mélangue.
Oui, bah c'est une chanson tout simplement sur les langues. Sur
et
les langues.
Et donc voilà, tu
une belle chanson sur l'amour et les langues.
Voilà, ce que voilà. J'allais dire, voilà. C'est une belle chanson d'amour et puis où tu en profites pour lui dire dans une langue qu'elle certainement elle ne connaît pas, puisque vu la réponse qu'elle te fait à chaque fois. Et ben voilà, en tout cas, j'ai bien aimé parce que autant j'ai. Et alors, ce que j'aime bien, c'est ce contraste qu'il peut y avoir avec une chanson comme même si elle est faite avec une forme d'humour et tout ça, là, le Canon d'Espagne qui traite quand même d'un sujet, même s'il y a une certaine légèreté en même temps. Il y a une tu traites d'un sujet grave quand même non parce que de,
avec ça a été langues, grave
mais en même temps bon tu fais des références, ressurgir quand tu parles de Guernica, quand tu parles de dedans tu fais ressurgir des choses qui sont dans la mémoire collective et des moments d'histoire.
Mais comme disait très bien Manu Solo au début de cette émission, on sait que c'est la guerre et chacun son fardeau, quoi.
Ouais. Hein. Donc, et là, bien sûr, on est dans une pure fantaisie amoureuse avec Milly Mélang. Et voilà, c'est encore un régal.
Je t'ai dit des mots doux, en swahili, en hindi, en ourdou. Je t'ai dit tu es la seule. En chifundi, en wolof, en peul. Je t'ai répété 100 fois que tu me rends dingue. En bassari, soukouma, yiddish et mandingue. Tu m'as dit mais qu'est-ce que tu chantes là? Tu causes en maori ou en shambhala? Je t'ai dit viens plus près. En catalan, en toulou, en moré. Je veux goûter de ton bec, en frioulant, en coptant, en ouzbek. À tes fleurs, à tes petits fruits, au bleu de tes veines. En tamoul, en gaélique, en nik, en slovène. Tu m'as dit comment j'y piche que quoi que tu causes en araméen ou en arawak. Voilà pourquoi, quand le bateau tend, je préfère mêler ma langue à ta langue. Nos mots, nos mots, nos mots ne seront pareils. Dansons, dansons comme les abeilles. Dansons, dansons comme les abeilles. En patois galop. Même si la barque est fragile et la route est longue. En tagalog, en sabir, en yok, en muong. Tu ne dis qu'un mot plein d'embarras. Était-ce du yucatac ou du bambara? Je t'ai dit ma chérie, en aïn ou en argot azéri. Venez-vous dans ma felouque, en atayak, en brel, en kalmouk. Faisons nuit commune, au moins une année, en souchon, birkinabé ou en javanais. Plus j'en dis, plus tu me rionnais, en pidgin, en bengali ou en polonais. Voilà pourquoi, quand le bateau tend, je préfère mêler ma langue à ta langue. Nos mots, nos mots, nos mots ne seront pareils. Dansons, dansons comme les abeilles. Dansons, dansons comme les abeilles. Dansons, dansons comme les abeilles.
Voilà, très belle chanson. Donc, il y a les albums, il y a les, le BIP, la brigade d'intervention poétique, il y a les ateliers, mais il y a aussi les livres. Il y a le théâtre, mais il y a aussi les livres. Et donc, là, ton dernier livre, c'est Le Maître de l'oubli.
Oui. Oui, c'est un récit. Pour
faire un très rapide résumé.
Oui, c'est difficile en deux mots. C'est un livre qui s'adresse au père. Voilà, c'est au moment où le père s'en va. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer et son fils lui parle. Le père donc est un vieux militant communiste pour qui 36 est un peu l'âge d'or. Et son fils, lui, 20 ans plus tard, s'est engagé, a été établi, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est parti travailler en usine en 68, dans l'idée que c'est là que tout se passait, c'est dans les usines qu'il fallait porter la bonne parole pour changer le monde, justement. Et le livre, il est composé comme une adresse de ce fils à ce père, où il lui raconte l'année qu'il a vécu, donc, enfin, ou les deux ou trois ans qu'il a vécu établi en usine. Et évidemment, il y a un grand fossé, il y a un grand silence qui s'est établi entre le père et le fils, parce que bon, le père, il est du côté du PC. À l'époque, le PC et ce qu'on appelait les gauchistes se tapaient dessus à grand plaisir, quoi, et avec violence même. Donc, c'est un peu ces deux vues qui se confrontent, quoi. Voilà. Mais pour reparler des livres en général, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail dans la langue, toujours. C'est toujours le même carrefour, quoi. C'est des formes différentes, le théâtre, la chanson, le récit, mais. Le fond des choses, c'est ça, c'est le travail sur la langue. Ben, là, on en sort, là, Mélie Mélangue.
Ouais.
Voilà, pour dire vite. Hein. Mais sinon, ben, c'est difficile, quoi. On a fait ici même, j'ai été reçu par Dominique.
Mais enfin, c'est vrai que c'est important de ne pas oublier ton travail sur tes livres. Hein. Moi, j'avais dû retrouver le Sud.
Voilà, mais
je vois qu'entre-temps, il y a Sinaï.
On va assommer les auditeurs.
Non, mais voilà, rappeler quand même le maître de l'oubli, Sinaï, qui est une sorte de livre d'art.
Qui est fait par une petite édition formidable qui est dans la région, qui s'appelle L'encre et lumière, et c'est Jean-Claude Bernard qui publie ses livres. Il a été ouvrier typographe, il a commencé comme ouvrier typographe à 14 ans, et cette passion de la typo ne l'a jamais quitté, au point qu'il a monté une édition où il continue à faire de la typo, ce que plus personne ne fait, quoi. Et il fait ça sur des très beaux papiers, il choisit toujours ses papiers, et il fait toujours se rencontrer un écrivain ou un poète avec un plasticien, et moi j'ai eu la chance de faire ce livre avec Nicole Bouédec, voilà, qui est une femme qui fait des encres, qui vit dans la région aussi, et qui vit de sa plume, mais au sens de la plume calligraphique, enfin, des encres qu'elle peint avec des bois, des bambous, des pinceaux.
Voilà, alors bon, il y a Rue de la Gaîté, il y a Zigzag, des poèmes, voilà, il y en a d'autres.
Oui, mais
notamment,
il y en aura
pas de soucis pour le Mouron. Tu ne fais pas de soucis pour le Mouron, il faudrait le réactualiser avec les nouvelles chansons. Donc,
Oui, à force, on va ennuyer les gens, on va mettre trop de pages sous les yeux.
Allez, on écoute une autre chanson, mais issue de l'album. Je tenais aussi à passer un extrait de Robert Desnos, de l'album que tu as consacré à Robert Desnos. J'ai choisi Les 400 coups.
Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête, quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant, tout en chantant et sanglotant. Quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, nous tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce qu'il leur restait de sang. sans nombre qui se perdaient parmi les ombres comme des rails dans la forêt. On rapporta leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois. On les avait retrouvés à la chasse ou dans des fêtes. Oui, mais jamais, jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux. Cela ne faisait pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain, j'en connais au moins un et peut-être aussi les 3 autres. Le premier c'est Anatole, le second Croquignol, le troisième Barbe Molle et encore Anatole. Je les vois de moins en moins, car ça déprime à la fin de fréquenter les gens trop malins, de fréquenter les gens trop malins. La fréquentation de la gente est trop malin.
Voilà, donc ça c'était un extrait d'un ancien album, il y a longtemps que tu avais pas écouté.
Oui,
ça, hein.
ça date de 20 ans au moins, je suis frappé
voilà.
Par...
Et avec, qui avait été encensé par Télérama.
Hein, oui, il y avait un 4F Télérama à l'époque. Oui, mais je ne renie pas du tout, hein, il était très bien, je n'ai pas craché dans la soupe non plus.
Bon,
non mais ça me frappe, la...
il est, les ouvrages sur Robert Desnos ne sont pas si fréquents que ça. Hein.
Oui, c'est vrai aussi, ouais.
Donc voilà, alors je voudrais parler de revenir sur l'album Michel Arbat, Olivier, Romain Garcia, hein, et c'est vrai que tu as raison parce que pour ce dernier album, je crois que tu as vraiment trouvé le truc qui harmonise le mieux tout ton travail, hein, avec cette collaboration. Mais je vois que dans les collaborations, il y a aussi des gens qui sont habitués aussi du studio, et je vois notamment Elsa Gelly.
Ah oui, justement dans le titre que tu as choisi, elle fait les chœurs. Voilà,
Papa Vendu Vent.
Dans le Papa Vendu Vent, voilà. Donc, il y a eu des visiteurs comme ça,
voilà,
bien sympathiques.
David Venetucci.
David Venetucci, Yves Potrel aussi, qui fait une superbe partie de violoncelle sur un titre aussi. Voilà, mais tout ça s'est fait quand même très simplement à la maison, enfin pas...
Ouais, alors quand même, Olivier Romain Garcia, il a aussi fait le prise de son, le mixage,
la réalisation. Oui, il a réalisé, comme on dit, entièrement cet album, c'est-à-dire il l'a mené, je veux dire, pour en faire, voilà, pour le... partir des chansons brutes, arriver au produit
fini.
Il y a
autre chose et que moi j'apprécie beaucoup quand cet effort est fait, parce que toi, moi je me revois encore, et tu as dû connaître cette époque où on avait la vinyle, on écoutait un album avec la pochette du vinyle dans les mains, et puis on triturait, il y avait un côté tactile à avoir cette pochette, il y avait une sorte de plaisir tactile à avoir cette pochette pendant qu'on écoutait l'album qui passait. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu perdu avec le boîtier plastique, mais là, vous avez eu la bonne idée de faire un triptyque cartonné.
Oui, parce que ça se fait beaucoup maintenant.
Très bel ouvrage, oui, tout à fait. Et peut-être qu'avec cette forme, on retrouve cette espèce de plaisir tactile.
Oui, un petit côté
livret,
sûr, un petit côté bouquin, voilà.
Tout à fait, voilà. Et dedans, je dois y dire, on y trouve un très, très beau livret. Pareil, hein, sur
avec
papier
des,
glacé, avec,
voilà,
des,
beaux
avec des dessins.
Dessins de,
je vois de Ella
des
papiers
peintres. Voilà, ouais. C'est une artiste stéphanoise, très jeune, et qui fait des choses que je trouve très, très dynamiques. C'est elle qui a fait le graphisme de notre affiche, là, le petit bonhomme qu'on voit peut-être, certains ont vu dans les rues, là, le petit bonhomme qui est sur sa boule, en train de hurler avec son bandoneon à la main.
Ouais. Voilà, en tout cas, voilà. C'est aussi, là aussi, on a un très bel ouvrage. On peut dire qu'on a une œuvre complète, puisque c'est vrai que c'est un plaisir, hein, d'écouter l'album.
Merci, j'ai plus besoin de faire mes œuvres complètes maintenant.
Comment ?
Je dis, j'ai plus besoin de faire mes œuvres complètes, ça y est, c'est fait.
Non, mais voilà, c'est un très bel ouvrage. Dedans, bon, tu as mis un petit texte sur toi. Et donc, il y a aussi des remerciements. Hein, L'Ange de Reims, Elsa Gelly, bien sûr. Marie-Pierre Planchon, David Venetucci, Yves Potrel, Ella, Yves Flanc, Rochavet, Pascal Corius aussi. Bernard Delfieux.
Bernard Delfieux, qui est notre ami qui travaille à Radio France. Qui est
Jean-Pierre Huguet.
Voilà,
les vaches de Saint-Julien Molin.
Et oui, puisqu'on les entend meugler dans un titre.
Et tous ceux qui ont aidé à la parution de cet album. Voilà, donc on a fait le tour de l'album. produit par Babel Zigzag, qui est l'association avec...
Voilà, c'est la structure qui soutient mon travail. Et puis, il faut peut-être dire qu'on peut trouver, ou si on peut acheter, si on ne trouve pas ce disque facilement, enfin en principe, il est distribué par Mosaïque Distribution, mais on peut aussi l'acheter par le site. On a une boutique. Et on peut
d'ailleurs, les livres, tout, hein, on peut... Tout. Donc moi, je peux conseiller d'aller sur Google, vous faites Michel Arbatz, donc Arbatz, A-R-B-A-T-Z, RTZ, j'ai dit, Arbatz, non, je l'ai bien dit, et puis voilà,
A-R-B-A-T-Z,
et donc vous allez sur Google, Michel Arbatz, et donc il n'y a pas de souci, on trouve tout ce qu'on peut vouloir trouver, et tout, on peut prendre la connaissance de toute la vie artistique et les activités artistiques de Michel Arbatz. Donc voilà, on va écouter ce dernier titre et on va se quitter avec. Moi, je le rappelle, hein, j'ai pris un plaisir fou, je te le redis. J'ai réécouté dans le peu de temps que j'ai eu l'album, et je crois qu'il va rester pendant quelques temps mon album de chevet.
Heureusement que l'occasion... les auditeurs ne me voient pas rougir, c'est l'avantage.
Non, je le dis franchement avec beaucoup de sincérité, parce que c'est vrai que cet album est vraiment très beau, et on aura l'occasion dans d'autres vagabondages de revenir un petit peu dessus. Allez, on écoute Papa Vent du Vent.
Monsieur le directeur du FBI, je suis venu avec mon frère Abel vous causer de notre papa Cain. Méga souci avec sa banque, avec la banque Bill. Papa depuis 20 ans vendait du vent, des pets de nonne et des pets de lapin, des courants d'air, de la poudre à perlimpinpin. Et nous avons du vent qu'il vendait du vent. Bien sûr, il avait l'air parfois un peu Nasdaq, mais tout le monde appréciait ses auction blocks en paquet. Toute la jet set, etc. venait se jeter dans ses bras. Tous les gogos allongeaient les bifetons pour avoir des actions bidons. Que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est pas rigolo de dénoncer son père. Monsieur le directeur du FBI, la société de papa est en débit. Personne encore n'est au courant du coup. Mais papa a bouffé les dividendes avec ses dents de loup. Faut dire qu'il avait aussi du génie. Partout les Golden Boys étaient bénis. Et puis c'est une sacrée idée, dis donc. Quand il n'y a plus de pétrole, de vendre du vide en bidon. Bien sûr, ça fera des mécontents du compte en banque. Ça rendra peut-être hargneux les épargnants. Gnan, gnan. La confrérie des écureuils va avoir les noisettes en deuil. Les gens aiment pas qu'on leur touche au grisby. Le moindre petit poussin devient grisby. Que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est pas rigolo de dénoncer son père. Tout le monde est mad of money. 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 Monsieur le directeur du FMI, voyez dans quel beau drap papa s'est mis. Le vent n'a pas ouvert, attend son parachute. Pour un vendeur de vent, c'est pas de chance, ah, femme de pute. On l'avait prévenu de l'Ashkoumoun, le vent qui fait tourner les moulins tourne. Les mauvais coups juteux sont les plus brefs. Dès qu'ils font du bénef avec du zef, y'en a pas bézef. Bien sûr, demain matin à Wall Street on sera triste. Un escroc de cet acabit, c'est quasi un artiste. Un funambule de la pépette qui risque de choper perpète. Que tous les grands appelaient mon petit rat et qu'on admirait aux Émirats. Que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est pas rigolo de dénoncer son père. Tout le monde est mad of money. 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 Tout le monde est mad of money.
C'est quoi ça?
Eh bien, c'est le générique de fin de l'émission. Voilà, c'est un groupe qui s'appelle Outback. C'est un groupe. Un groupe français qui à chaque fois aborde des thèmes différents. Je vois que ça plaît souvent à beaucoup de monde le thème. L'introduction de l'émission se fait avec un morceau de Pascal Comelade.
Ça, je l'ai reconnu.
Voilà, et la fin pas. Avec Outback. Voilà, on termine comme ça sur quelque chose de très emporté, comme ça.
Très joyeux.
Et je rappelle donc la sortie de l'album de Michel Arbatz de A à Z, 14 nouvelles chansons, donc, composées, écrites et arrangées avec Olivier Roman Garcia. Donc vraiment un superbe musicien, un superbe guitariste, enfin on dirait multi-instrumentiste, hein, on peut dire.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que son instrument de prédilection, on va dire,
c'est
la guitare.
Ouais.
Et qu'il utilise, voilà, les cordes, ouais. qui donne à l'album aussi sa couleur musicale même s'il n'y a pas que de la,
voilà,
de la guitare.
Pour ceux qui veulent le voir
qu'il...
en vrai, il sera avec moi le 22 janvier au Jam.
Au Jam, le 22 janvier. Donc, allez prendre les renseignements sur le site de Michel Arbatz. Vous tapez Michel Arbatz Google et vous allez chercher le site de Michel. Vous aurez tous les renseignements sur le concert du 22. Pour ceux qui sont intéressés aussi sur le concert à Paris, le premier concert à Paris, ce sera le 18, le lundi 18, au théâtre du Petit Saint-Martin. À un lieu sur lequel tu reviendras d'ailleurs.
On rejoue en février aussi.
Voilà. Ouais. Donc, Michel, dès que tu as des nouvelles, et puis je pense qu'on sera amené à se revoir parce que
René
Char, Boris Vian, Jacques Prévert aussi, on aura l'occasion de se revoir pour d'autres choses. Et puis dès que tu as une actualité,
avec grand plaisir.
On y reviendra et vagabonder.
Allez. Allons vagabonder.
Merci, à bientôt et bon vagabondage.
Divergence.